Bonjour, je suis Christophe, votre guide personnel. Je vous souhaite la bienvenue à la découverte de l'une des merveilles du monde. Les vases des arbres d'agrumes des jardins royaux est l'un des lieux les plus spectaculaires et pittoresques de Paris. Il remonte à la fin du 19e et se trouve sur l'emplacement de l'ancien palais royal des Tuileries qui fut brûlé par les révolutionnaires de différentes époques et début 20e avec une histoire tout aussi intrigante qui couvre 8 siècles étroitement liée à la France et à ses rois. Vous êtes maintenant dans la cour Napoléon, entre la façade arrière et les très longues ailes symétriques du nouveau Louvre et, à droite, vous avez, à ses extrémités, au-delà de l'arc de triomphe du carrousel, sur le côté opposé se trouvent d'élégantes allées bordées d'arbres qui s'alternent avec des sculptures, exemple parfait du style raffiné empire. Une légende dit qu'un homme roux déambule dans les jardins. Peut-être d'une enceinte ou d'une cage au loup, peut-être du mot « léoard » qui, en vieux français, signifiait « place forte ».
Elle mesure 34 mètres de haut, y compris la base, et a été érigée entre 1981 et
1871.
Des projections multisensorielles, des spectacles de cascadeurs qui vous dévoileront les secrets des incroyables scènes d'arts martiaux des films, et bien plus.
Vous pouvez apercevoir
une cuisine pauvre au sol sale et aux murs décrépits et pleins de taches où sont accrochés des ustensiles de cuisine. L'exceptionnelle représentation réaliste des matériaux ne détourne pas pour autant l'attention de la solide figure féminine qui, par un geste presque sacré, verse attentivement le lait sans en perdre une goutte.
La meilleure façon d'arriver au monastère est de prendre le spectaculaire téléphérique de Tong Chong en seulement 25 minutes d'un trajet qui figurera sans doute parmi les meilleurs de votre séjour. Vous parcourrez près de 6 km riches en vues à couper le souffle pour arriver au village de Ngongping.
Dans ce petit square, un peu en retrait, le brouhaha du quai s'atténue. Le gros dôme, qui surgit au-dessus des pierres, abrite les séances publiques de l'Institut de France qui s'ouvre au son des tambours de la garde républicaine. Ça résonne à l'intérieur et c'est très solennel.
Mais maintenant, portez à nouveau votre regard sur le bâtiment pour apprécier pleinement le plaisir de sa symétrie. On la doit à Napoléon. Malheureusement, pendant le terrible soulèvement populaire de 1871, qui s'est terminé avec le gouvernement socialiste de la Commune de Paris, le palais des Tuileries fut détruit.
Le matin, sur le grand tableau au bas de l'escalier qui mène aux salles de travail, un huissier prend soin de calligraphier l'ordre du jour.
Vous devez savoir qu'au début, la pyramide a été sévèrement critiquée. Beaucoup ont considéré que le projet était une grande erreur et parlèrent de la géométrie glaciale de la construction qui, selon eux, transformait le musée en un parc à jeux. Des légendes métropolitaines circulaient également sur l'association entre la structure et le monde maçonnique et ésotérique. On a dit que les plaques de verre qui recouvrent la pyramide étaient au nombre de 666, le nombre du diable, alors qu'il y en a en réalité 673.
Impossible de ne pas voir immédiatement l'immense statue du grand Bouddha de Tian Tan, qui signifie « temple du ciel ». Le corps est composé de 160 pièces de bronze, tandis que la tête a été forgée avec du bronze et de l'or pour la rendre plus brillante au soleil. Bouddha est représenté assis dans la position de méditation du lotus sur une base de 3 étages représentant la même structure que celle trouvée dans une importante salle du temple Tian Tan qui signifie « temple du ciel » à Beijing.
Le lait d'un blanc pur est le point culminant de l'action. La scène est représentée d'un point de vue légèrement surélevé, ce qui permet à la lumière claire de se diffuser. La toile, parfaitement équilibré dans tout ce qui la compose, propose une extraordinaire représentation, presque tridimensionnelle, de plusieurs objets, de la corbeille à pain au piège à souris en bois brut, du panier en osier aux métaux lustrés, des céramiques au tissu. C'est également la parfaite association du jaune et du bleu.
Cette mission se traduit, entre autres, par la rédaction incessante d'un dictionnaire. Le dictionnaire de l'Académie française, dans lequel sont portés le sens, l'étymologie et les usages de chaque mot. Lorsqu'une édition touche à sa fin, les académiciens reprennent l'ouvrage par le début. Ils en sont aujourd'hui à la fin de la 9e édition.
Dans les niveaux 0 et 1 de l'aile Sully, on peut voir plus de 50 objets de la collection égyptienne. Vous apprendrez tous sur la vie, le concept de vie après la mort à l'époque des pharaons. Dans l'important département des antiquités grecques, au niveau moins 1, 0 et 1 des ailes Denon et Sully, vous aurez l'embarras du choix de la Grèce préclassique à la fin de l'Empire romain.
Goûtez aussi les panelles, des beignets à base de farine de pois chiche ou les croquets, des croquettes de pommes de terre frites qui peuvent aussi garnir un sandwich. N'oubliez pas les arancine, des boulettes de riz panées et frites, généralement fourrées de sauce bolognaise, de petits pois et de caciocavallo, ou de cubes de jambon et de mozzarella fondante. Un bon repas commencera par l'entrée la plus typique de Palerme, la caponata, des cubes d'aubergines frites et cuites dans une sauce tomate aigre douce, avec du céleri, des capres, des oignons et des olives vertes.
Pour l'art italique et étrusque, vous devez aller au niveau 0 de l'aile Denon, présentant des sculptures, des vases, des sarcophages, des armes, des bijoux et des meubles revenant principalement des tombes. L'art romain vous attend au niveau 0 et 1 des ailes Denon et Sully dans un ordre chronologique de la fin de la République à la chute de l'Empire.
Les plats principaux comprennent les anelletti al forno, des pâtes en forme d'anneau cuisinées avec une sauce à la viande hachée, aux tomates et aux petits pois passés ensuite au four. Les spaghettis au bonite, aux pignons de pin et aux fenouilles sauvages sont aussi très répandus. Végétariens, ne manquez pas la pasta kivrokouli ariminati, avec du chou-fleur, des pignons de pin, des raisins secs et de la chapelure.
Il y a la riche collection d'œuvres de la peinture italienne, des grands maîtres de la Renaissance entre autres. De l'Espagne, vous avez une collection de chefs-d'œuvre, allant du 15e au 19e siècle. Et la dernière partie est consacrée aux peintures britanniques et américaines.
Dans la cuisine chinoise, les repas sont toujours précédés d'une soupe. La plus répandue est la soupe aigre piquante, Xuan La Tang, à base de viande et de légumes. La soupe aux boulettes, appelée Qingtang Wanzi, à base de boulettes de porc, de champignons et d'épices, ou la soupe de wonton aux raviolis sont aussi typiquement pékinoises.
Reprenons la marche. Le mouvement des corps sur le trottoir soulève des strates d'histoire. Par le nom de la rue, Mazarin nous revient. Nous longeons les murs de son ancien collège des Quatre Nations. Vous souvenez-vous, les jeunes gens s'ébattaient dans les cours et étudiaient avec application. Les voix des adolescents se sont tues. Les livres et les savants déjà accomplis ont pris place. L'animation de la ville à présent secoue ces morceaux de temps.
Et si vous avez envie de sculpture, allez au niveau moins 1 et 0 de l'aile Richelieu pour entreprendre un parcours du Moyen-Âge au romantisme à la découverte des plus beaux chefs-d'œuvre de la sculpture française, tandis que dans l'aile Denon, vous pouvez admirer le nec plus ultra de l'Europe, avec une forte présence espagnole et italienne, Donatello, Michel-Ange, Canova. Un bon exercice pour les yeux, mais aussi pour les jambes.
Au numéro 38,
dans cette maison où il habitait, Jean-François Champollion découvrit en septembre 1822 le principe du déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens.
Voilà qui nous rappelle la grande expédition d'Égypte.
Sachez que l'histoire du Pictram est fascinante et mérite d'être connue. Pour tout savoir sur l'histoire de ce véhicule et voir comment il a évolué au fil du temps, vous pouvez visiter à la station inférieure une exposition très bien réalisée avec l'inauguration du premier funiculaire de tout le continent asiatique, le Pictram, sur lequel vous aussi vous ferez peut-être un petit voyage. Commencez par une fameuse entrée, les lampaccioni, des bulbes semblables à de petits oignons qui sont ébouillantés dans de l'eau vinaigrée et servis à l'huile. Vous trouverez aussi des artichauts et des beignets de fleurs, de courgettes ou des rouleaux d'aubergines farcis de fromage et de mortadelle cuits au four dans de la tomate.
Une légende raconte que, les pierres ont été unies en utilisant des milliers de jaunes d'œufs que l'on avait fait arriver de tout le royaume. Des analyses récentes, effectuées sur les matériaux de construction du pont, ont confirmé la présence d'éléments organiques que l'on peut relier aux œufs.
Si la faim vous est venue, le restaurant végétarien du monastère vous surprendra agréablement par son excellente cuisine.
Le River Safari, c'est le premier et l'unique en son genre en Asie, et il vous offrira la possibilité d'assister à des jeux d'eau, de faire des tours en bateau sur la rivière ou de monter sur des attractions thématiques.
Il est clair que le jeune homme tenait un objet dans sa main, mais nous ne savons pas lequel, et c'est seulement en le sachant que l'on pourrait reconnaître le héros représenté. Certains soutiennent qu'il s'agit de Persée, qui tua la terrible méduse en coupant sa tête couverte de serpents, qu'il montrerait ici comme un trophée.
Vous pourrez voir des animaux très rares, comme les anacondas, les anguilles électriques, les raies d'eau douce, le lamantin des Caraïbes, le poisson-chat géant du Mékong, en plus de vautours fauves, de pandas roux, de faisans dorés, de jaguars, de singes écureuils, de loutres géantes et d'alligators de Chine.
D'autres soutiennent que cela pourrait aussi être un athlète qui montre un trophée.
La construction, soutenue et financée par certains des entrepreneurs les plus doués de l'époque, s'est déroulée entre 1875 et 1897, selon le projet de l'architecte Giovanni Battista Filippo Basile de Palerme.
Observez la représentation précise du corps aux muscles puissants et aux mouvements parfaitement équilibrés. Le beau jeune homme s'appuie fermement sur sa jambe gauche avec sa jambe droite pliée. Son bras gauche est tendu le long du corps, tandis que le bras droit se lève pour brandir le fameux objet aujourd'hui disparu. Si vous aimez marcher, Victoria Peak vous propose plusieurs itinéraires assez simples physiquement et parfaits pour admirer de merveilleux paysages et se détendre. Le Guggenheim est l'un des plus importants musées du monde dédié à l'art moderne et contemporain, ainsi qu'à l'impressionnisme et au post-impressionnisme. Si vous voulez essayer les pâtes, je vous suggère les spaghettis à la sauce frite, les cha tiang mian. Ce sont des nouilles de blé épaisses nappées de sauce cha tiang, préparées en faisant légèrement bouillir la viande de porc hachée bouillante, qui est ensuite sautée avec de la pâte de soja jaune fermentée.
À la mort de l'architecte, les travaux se poursuivirent grâce à son fils Ernesto, étoile montante de la culture architecturale de la Belle Époque, c'est-à-dire les décennies qui ont précédé la Première Guerre mondiale, lorsque tout semblait se passer à la perfection et que l'architecture et l'art étaient utilisés pour transmettre un sentiment de confiance dans le progrès.
Depuis le jardin de cerisier qui se trouve devant le sanctuaire, vous accéderez à un grand espace offrant de nombreux points d'intérêt, devant lesquels vous pourrez voir un monument consacré aux femmes et aux enfants, tandis que du côté opposé, vous verrez trois statues en l'honneur des chevaux, des chiens et des pigeons voyageurs.
L'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques.
Qui collaborent en son sein.
Bonjour, je suis Pernelle, votre guide personnel. Je vous souhaite la bienvenue à la découverte de l'une des merveilles du monde. La laitière a également été considérée comme une allégorie des Pays-Bas du XVIIe siècle, mais pas seulement pour ses valeurs éthiques. La Hollande était alors déjà célèbre pour l'élevage bovin, la production de beurre et de lait, l'alimentation riche et variée.
Au premier étage, les deux salles des séances installées au XIXe siècle sont majestueuses. Dans la grande, les boiseries sont un écrin chaleureux. En hauteur, des personnages illustres de la vie artistique et intellectuelle, peints ou sculptés, en buste ou en pied, se succèdent et observent silencieusement leurs successeurs.
Vermeer a souvent peint des portraits de femmes dans l'intimité de leur maison. La laitière, réalisée vers 1658, est une de ses œuvres les plus connues.
Nous sommes jeudi, c'est le jour de l'Académie française. La séance se tient alors dans la petite salle, à huis clos sous le regard bienveillant de Richelieu, fondateur de l'Académie. La principale fonction de l'Académie sera de travailler avec tout le soin et toute la diligence possible à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences.
Je vous conseille aussi les spätzle, des pâtes à base de farine, d'eau et d'œufs que vous pourrez déguster dans différentes variantes, comme ceux aux orties ou aux épinards. Mais si vous voulez goûter un plat véritablement originaire de Trente, demandez les strangolapreti, créés à l'occasion du Concile de Trente. Il s'agit de gnocchi à base de pain rassis et d'épinards.
L'une des principales attractions de Lanto est l'immense statue du Bouddha de Tiantan, au monastère de Poline.
Ces deux étages accueillent entre autres un avion de combat, une locomotive à vapeur.
Le téléphérique s'appelle Ngongping 360 en raison de la vue à 360 degrés que l'on peut apprécier depuis ses cabines, dont certaines sont presque totalement transparentes. Idéal pour ceux qui ne souffrent pas de vertige.
En continuant vers le fond de la cour, après avoir passé un parking, vous verrez une plateforme sur laquelle ont lieu des combats de sumo, le sport de lutte traditionnel japonais.
Un peu plus loin se trouve le monastère de Poline. Il a été fondé il y a environ un siècle, mais la plupart de ses bâtiments ont été construits depuis les années 1970. Les deux salles les plus importantes sont le sanctuaire principal et celle des 10 000 Bouddhas.
À gauche, vous entrerez dans le jardin de l'étang sacré.
Le gigantesque Kouros du Cap Sounion, Kouros signifiant garçon, il fait plus de 3 mètres de hauteur, mais qu'est-ce qu'il peut bien représenter? Et où une telle œuvre pouvait-elle bien se trouver?
Allez vous promener autour du petit lac et profitez de la cascade et de l'environnement si serein et merveilleux, semblable à la montagne.
Figurez-vous qu'on ne l'a trouvé qu'en 1906, dans un fossé juste devant le magnifique temple de Poséidon au Cap Sounion.
Dans le jardin, vous verrez aussi 3 petits salons de thé ouverts au public et, en continuant jusqu'à l'arrière du grand sanctuaire, vous trouverez le superbe bâtiment
qui surplombe la mer au sommet d'un rocher. Il a été enterré par les Grecs avec d'autres sculptures après que les Perses, en 480 avant Jésus-Christ, eurent profané le temple et morcelé les statues.
Des chaises sont installées sur le pourtour de la salle pour accueillir le public. Avant chaque séance, un huissier prend soin de tout préparer. Avec minutie, il dispose les sous-mains, des documents parfois.
Ce wall, qui signifie donc mur en anglais, fut renforcé et fortifié en y insérant des palissades pour éviter toute intrusion. D'abord des Indiens, puis des Anglais, qui, en effet, causèrent sa destruction en 1699. Ainsi, inutile d'espérer trouver ne serait-ce qu'un fragment du mur, car seul son souvenir est resté, lié pour toujours au nom de la rue principale du quartier.
Nous voici sur cette placette, alors même qu'anciennement, avant que le centre d'Alès ne soit détruit et reconstruit d'immeubles quadrillant la ville, courait par là les rues de la Galère et Souchon. Nous sommes à la fin des années 40. Ici, des imprimeries battent la mesure.
Vous êtes maintenant devant l'un des plus célèbres chefs-d'œuvre du musée, la statue en bronze du dieu de l'Artémision, qui pourrait être Poséidon, dieu de la mer, ou Zeus, roi des dieux en train de lancer quelque chose.
Pour vous aider dans votre visite, je vous signale qu'une fois franchi l'entrée, vous trouverez à gauche les maisons de deux grands mammifères, le rhinocéros et l'hippopotame, avec des centaines d'espèces souvent uniques et rares. À droite de l'entrée principale, des éléphants, des antilopes et des pandas sont prêts à vous émerveiller.
Notre chef-d'œuvre a été découvert par des pêcheurs qui en pêchèrent le bras en 1926 et 2 ans plus tard, une équipe de plongeurs récupéra le reste de la statue.
Tandis qu'au centre se trouvent des cochons et d'autres animaux de la ferme. Le monde des pingouins vous conduira à travers un fabuleux voyage dans les glaciers d'Antarctique, à la découverte de ces drôles de bipèdes à plumes.
Dans les heures creuses, il travaille à ses propres productions et s'adonne déjà à l'édition de quelques ouvrages. Pour les gravures, il va les tirer chez Préel, le seul atelier lithographique d'Alès.
Les plats de viande sont aussi nombreux, mais vous en trouverez aussi à base d'anguilles. Ici, vous trouverez aussi différents plats à base de cerf ou de chevreuil, cuisinés au four ou à l'étouffée. Enfin, ne ratez pas les desserts, comme les fiadoni alla trentina, des chaussons de pâte feuilletée fourrées aux fruits secs, au miel et aux épices, le strudel, toujours à base de pâte feuilletée mais farci aux pommes, ou le zelten, dessert typique de la zone, préparé avec des fruits secs, des figues ou des fruits confits qui, à Trente, est réalisé selon une recette typique de la ville.
La salle est prête. De nombreux savants et artistes, français et étrangers, sont conviés à ces séances qui jouent un rôle important dans la circulation des savoirs.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le,
Avec minutie, il dispose les sous-mains des documents parfois. Il connaît parfaitement le siège de chaque académicien. Il assiste également à la séance et veillera au bon fonctionnement du matériel nécessaire au déroulement des travaux. La salle est prête. De nombreux savants et artistes, français et étrangers, sont conviés à ces séances qui jouent un rôle important dans la circulation des savoirs.
Le célèbre Carré noir par Casimir Malevitch est considéré comme l'une des toiles les plus importantes de la peinture abstraite et de tout l'art occidental du XXe siècle. L'œuvre est fréquemment citée par la critique, les historiens, les conservateurs et les artistes comme le point zéro de la peinture, faisant référence à la valeur historique de la peinture.
La visite du parc s'achève par l'aquarium dans lequel vivent des espèces de différentes mers autour du monde. Mais vous verrez aussi des reptiles et des insectes et la maison des carnivores où se trouvent les guépards, les panthères, les tigres et les lions.
L'exposition « L'atelier de la nature » est une invitation au voyage. Du fleuve Hudson à Yellowstone, de Venise à Giverny, de Boston à Long Island.
En 2007, le monde entier fut bouleversé par l'histoire du petit ours polaire Knut, né dans le zoo de Berlin. L'ourson avait été rejeté par sa mère et élevé par un gardien. Ses péripéties avaient passionné le web, si bien que des millions de visiteurs se rendaient à Berlin pour voir la petite célébrité, à qui le destin a malheureusement réservé une triste fin. Knut est en effet mort 4 ans plus tard, probablement à cause d'une maladie rare.
Le bassin Onymphéa, de Willard Metcalf, montre une campagne intacte et tranquille, comme se plaisent à la représenter avec une certaine nostalgie les premiers Américains venus peindre à Giverny. Aujourd'hui, le sujet de cette petite toile évoque irrésistiblement le jardin de Claude Monet. Mais à l'époque où Metcalf fréquente Giverny, entre 1886 et 1888, le maître impressionniste n'a pas encore acheté la parcelle de terrain où il créera son célèbre jardin d'eau.
Si vous décidez de rester dîner dans le restaurant tout en haut de la tour, la vue sur la ville illuminée vous laissera sans voix, surtout à partir de 20h quand vous pourrez regarder, de cette position privilégiée, le spectacle qui se répète chaque soir,
le naufrage de la frégate Méduse dans l'Atlantique, sur la route entre la France et le Sénégal. 149 survivants réussirent à monter sur un radeau sur lequel ils dérivèrent pendant 13 jours. Quand ils furent finalement repérés et secourus, seuls 12 survivants étaient encore en vie.
Mais c'est grâce à Ila von Ribet, artiste et visionnaire allemande, que Solomon décida de se concentrer sur l'art abstrait en exposant sa collection pour la première fois dans son appartement de l'Hôtel Plaza. Les espaces se révélèrent toutefois bien vite insuffisants pour contenir toutes les œuvres, de plus en plus nombreuses.
On pourrait définir Jungle Island comme une véritable arche de Noé, contenant dans un seul jardin de nombreuses espèces animales, des plus connues aux moins connues. Idéal pour les plus petits, ce grand parc zoologique qui occupe la partie nord de Watson Island plaira tout aussi bien aux grands.
Vous devez savoir que Malevitch n'était pas le seul artiste à peindre des carrés noirs, et encore moins le premier. Par exemple, bien avant lui, en 1617, Robert Flood réalisait dans un de ses opus un carré noir, et en 1843, le peintre français Bertal peignait « Vue de la Hougue » et « Fait nuit » où la couleur noire masquait tout.
Vous êtes maintenant prêt à admirer le superbe spectacle de sons et de couleurs qui vous attend. À gauche et à droite de l'entrée, vous trouverez respectivement les flamants roses du Flamingo Lake et bien sûr, les perroquets dans le Parrot Bowl. Ne ratez pas le Jungle Theatre, où vous pourrez assister à différents spectacles. Je vous signale aussi la zone dédiée à la faune des Everglades, qui reproduit l'habitat de cette région marécageuse typique du sud de la Floride.
Ce sont les nénuphars sauvages fleurissant à la surface de l'Epte ou d'un bras de la Seine
que Metcalf représente ici. Les larges feuilles parsemées de fleurs jaunes occupent le premier plan de la composition, qu'un groupe d'arbres à gauche plonge dans l'ombre.
Victoria Peak est le point culminant de Hong Kong, une colline d'une hauteur maximale de 552 mètres, située à un point qui vous offre la meilleure vue de la ville et tout ce qui l'entoure.
Le Jurong Bird Park est le parc ornithologique le plus grand au monde pour son nombre d'animaux et le second le plus grand, aussi bien pour son nombre d'espèces que pour sa superficie, après le parc de Walsrode en Allemagne. Il accueille en effet 5000 oiseaux de 400 espèces.
Ne quittez pas Miami sans essayer la Key Lime Pie, cette tarte au citron vert paradisiaque dont la crème est à base de lait concentré et les citrons cultivés sur les îles voisines. Miami étant proche de marais, vous pourrez aussi y goûter le crocodile grillé ou les cuisses de grenouilles frites. Bon appétit!
En laissant le Louvre derrière vous, vous avez devant vous l'espace vert des Jardins des Tuileries, précédé par l'ambitieux Arc du Carrousel. L'arc fut érigé au début du 19e pour célébrer les victoires de Napoléon, en particulier celle d'Austerlitz contre l'armée autrichienne.
Dans la Grèce antique, il était courant de représenter des garçons nus, debout, en train de marcher, comme le montre la position des jambes. Ces statues s'appelaient kouros, qui signifie « garçon ». Dans cette salle, vous en verrez des exemplaires de différentes époques. Le kouros était toujours représenté nu, car la nudité masculine n'était pas un tabou. Même les athlètes concouraient nus. Vous trouverez également des statues de filles, appelées corées, toujours représentées habillées et immobiles.
Le regard est attiré par l'arrière-plan et la colline brillamment éclairée par le soleil. Au centre du tableau, la surface de la rivière reflète le paysage avec la clarté d'un miroir.
Vous êtes arrivé devant le tableau le plus célèbre au monde. Oh, vous n'êtes peut-être pas vraiment devant, mais au milieu d'une foule. Tout le monde veut voir la Joconde de Léonard de Vinci. Les flashs devraient être interdits, mais aucun gardien n'a envie d'intervenir. Et un verre spécial protège le tableau des éclats de lumière excessifs.
Ne manquez pas non plus de visiter Wings of Asia, la section abritant la plus grande collection d'oiseaux d'Asie du Sud-Est, avec plus de 200 espèces. Visitez-la à midi, lorsqu'un orage est simulé, suivi d'une bruine fraîche et légère.
Plus d'Académie royale.
Comment une nation pourrait-elle se passer d'une assemblée de savants, d'écrivains, de scientifiques, d'artistes ?
Le 25 octobre 1795, la Convention décrète alors la création de l'Institut national des sciences et des arts, afin de pallier le besoin d'une telle assemblée. Condorcet a été un inspirateur de cette nouvelle institution qui
sera en quelque sorte l'abrégé du monde savant, le corps représentatif de la République des lettres, l'honorable but de toutes les ambitions de la science et du talent, la plus magnifique récompense des grands efforts et des grands succès.
Ce projet est ambitieux.
Lantau est la plus grande île du territoire. Elle est reliée à Kowloon par une structure spectaculaire, le pont Tsing Ma, que je vous recommande de visiter. Cette île offre une multitude d'attractions, dont l'un des parcs d'attractions les plus connus au monde, Disneyland. Bien qu'elle occupe un vaste territoire deux fois plus grand que l'île de Hong Kong, Lantau n'est pas densément peuplée. D'abord parce qu'elle est largement occupée par la réserve naturelle de la zone humide de San Tao et d'autres zones naturelles, mais aussi parce qu'elle abrite le grand aéroport international de Hong Kong, où vous avez probablement atterri lorsque vous êtes arrivé.
Vous devez savoir que New York est la ville où vous trouverez le plus grand nombre de restaurants de cuisine internationale, considérés comme les premiers au monde. Certains plats états-uniens sont nés de chefs new-yorkais, comme le homard Newburg, cuit dans du cognac et du xérès. Son nom est un anagramme de son inventeur, Ben Weinberg.
John Leslie Breck peint ses études d'un jour d'automne pendant les dernières semaines de son séjour à Giverny en 1891. Quelques mois plus tôt, Claude Monet a présenté une série de toiles consacrées au même motif à la galerie Durand-Ruel. Dans des cadrages variés,
les meules de Monet changent de couleur au gré des heures du jour et des phénomènes atmosphériques.